les membres du FMI et de l'Union européenne. Accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé droit, c'est marqué go sport en grève. D'autres termes hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
On pourrait rajouter que ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement. Hein.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bienvenue dans le Canu Info. Alors aujourd'hui au programme, on va commencer par quelques brèves nationales. Donc on parlera de manifestations, d'expulsion de squats, de la situation des personnes sans papiers et des migrants. Et entre autres, hein, mais il y aura pas mal de petites brèves comme ça. Et ensuite, à l'international, nous partirons. Alors, on va reparler de Mos Maiorum, qui était une opération pour essayer de trouver les personnes sans papier dans toute l'Europe. Et on restera un peu au sujet de la migration, mais on partira en Australie. Et on parlera ensuite d'Ebola et du racisme. Et ensuite, après une petite pause musicale, nous parlerons de Facebook et d'Apple et de la parité et d'un projet de mine en Espagne notamment. Et voilà, ensuite on finira par un agenda. Alors, du coup, pour commencer, moi je voulais... Si on enlève les retours, ça peut aller mieux. C'est vrai qu'il y a un petit bruit de fond qui ne va pas être très cool, agréable bien. Pour les auditeurs et auditrices, je vous l'accorde. Alors, bref, pour commencer, je voulais commencer par vous lire des extraits d'une lettre de Maman Tout Égale. C'est un collectif de femmes donc, qui lutte contre les lois, contre le port du voile à l'école. Du coup, c'est une lettre qui s'adresse à la ministre de l'Éducation nationale. Et dans cette lettre, elles expliquent du coup qu'elles sont vraiment exclues très souvent des sorties scolaires. Et du coup, c'est leurs enfants qui en pâtissent et pour qui c'est violent de ne pas pouvoir être accompagnés par leur maman, quoi. Et du coup, ça elles expliquent que ça a commencé avec Luc Chatel, qu'elles ont été stigmatisées. Du coup, que les gens veulent bien qu'elles fassent des gâteaux pour les kermesses, mais pas qu'elles viennent aux sorties scolaires, parce que ça ne fait pas bon genre de porter un voile et d'accompagner des enfants. Voilà, alors tout ça malgré l'avis du Conseil d'État du 23 décembre 2013 qui rappelle la loi d'interdiction des signes religieux ostensibles qui rappelle que la loi d'interdiction des signes religieux ostensibles ne s'applique pas aux parents accompagnateurs et accompagnatrices de sorties scolaires. Et malgré ça, la situation d'arbitraire et d'exclusion reste inchangée. Voilà, donc mardi 21 octobre, à l'Observatoire de la laïcité, il y a la ministre de l'Éducation qui a déclaré qu'elle pensait que la situation des parents accompagnateurs de sortie scolaire ne devait pas pâtir de ces lois-là. Elle a rappelé son attachement à la neutralité du service public et elle a dit que le principe, c'est que dès lors que les mamans ne sont pas soumises à la neutralité religieuse, l'acceptation de leur présence aux sorties scolaires doit être la règle et le refus l'exception. Voilà. Et mais en fait, dans la pratique, il y a beaucoup de chefs d'établissement qui ne tiennent pas compte de l'avis du Conseil d'État et qui trouvent que les parents font du prosélytisme, par exemple, en portant un foulard. Voilà. Donc, du coup, elles écrivent cette lettre pour que tout le monde ait le droit à la liberté de pensée et à la liberté de religion. Et voilà, du coup, pour elle, si on veut l'égalité, il faut pouvoir ne pas interdire aux mamans qui portent le foulard de participer à la vie de l'école. Voilà, que c'est des mesures islamophobes. Voilà, donc elles avaient été reçues le 18 juin dernier par le chef du cabinet, Monsieur Hamon, et il n'avait pas du tout donné de retour. Donc là, elles espèrent avoir des retours de Madame la ministre. Voilà, donc c'est le collectif Maman Tout Égale.
Ensuite, ce week-end, il y a un grand rassemblement pour le projet du Desté. Juste un petit rappel sur ce projet, c'est un projet de barrage qui s'est construit le long de la forêt de Sivens dans le Tarn et qui va ennoyer 13 hectares de la zone humide du Desté. C'est un projet qui date d'il y a déjà 40 ans, qui est porté par le Conseil Général du Tarn et dont le financement serait 100% par des fonds publics. L'objectif étant que l'eau qui soit déviée serve à 30% pour faire 30% pour diluer la pollution et 70% pour l'irrigation et donc la promotion d'une agriculture intensive de monoculture de maïs. Les chantiers de déboisement ont déjà commencé et sont d'ailleurs assez violents avec des attaques policières sur des personnes qui s'étaient enterrées à moitié dans la terre. Du coup, ce week-end, donc tout au long du week-end, il y aura un grand rassemblement avec des témoignages des occupants et des différents collectifs de lutte. Il y a aussi une transhumance qui est organisée avec des débats publics un petit peu tout au long de la route et des discussions du coup un petit peu plus globales sur tous les grands projets inutiles, l'aménagement du territoire et les techniques de lutte.
Et du coup, maintenant, petite brève pour revenir sur les interdictions qu'il y avait eu pour les manifs pro-palestiniennes. En effet, le parquet de Paris a fait appel hier, jeudi, de la relaxe d'un responsable du NPA qui s'appelle Alain Pojola, qui est poursuivi en tant qu'organisateur de deux rassemblements pro-palestiniens interdits par la police cet été. Donc voilà, pour rappeler, à l'audience mercredi au tribunal correctionnel de Paris, le militant s'est défendu en évoquant une décision collective de maintenir les rassemblements. Mais en fait, surtout au-delà de ça, son avocat a soulevé l'absence de preuves d'un appel personnel de sa part à braver l'interdiction et que le parquet avait requis 2 mois de prison avec sursis et 1 500 euros, mais n'avait pas suivi Alain Pojola, qui avait du coup obtenu la relaxe. Surtout, l'appel du parquet confirme l'acharnement du gouvernement français contre tous ceux qui osent relever la tête, dénonce hier encore, du coup, toujours cette même personne, Alain Pojola, à l'issue de l'audience. Et donc, c'est surtout pour rappeler l'acharnement du gouvernement français et de l'État vis-à-vis de ces manifs pro-palestiniennes et surtout leur volonté de les interdire.
Et alors du coup, on repasse à des luttes, à des gens qui relèvent la tête justement en ce moment. Et qui sait, c'est des paysans de la Confédération Paysanne. Donc c'est quelque chose qui a commencé le 15 octobre, mais qui est très peu connu, qui a été très peu relayé, que nous on a découvert sur Bastamag. Donc en fait, il y a 5 paysans de la Confédération Paysanne qui ont entamé une grève de la faim pour protester contre les modifications de la PAC, donc la politique agricole commune, donc au niveau européen, et la loi d'avenir agricole. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que déjà on savait que la PAC elle favorisait déjà les gros exploitants, puisque c'est les plus gros exploitants qui touchent le plus d'aide, c'est à l'hectare et à la quantité produite, et que maintenant elle va exclure totalement les petits exploitants, parce qu'il y a des changements de conditions pour accéder aux aides de la PAC, savoir qu'un éleveur faut qu'il ait 10 vaches contre 3 avant, ou par exemple pour un apiculteur, juste pour qu'on se rende compte un petit peu, il faut qu'il ait maintenant 72 ruches pour avoir des aides, ce qui fait quelque chose d'énorme. Du coup, il y a des paysans qui sont en grève de la faim, et la Confédération Paysanne rappelle que ces nouvelles mesures mettent à mal l'agriculture et l'élevage de proximité au profit d'une industrialisation agricole subventionnée. Ces agriculteurs en grève de la faim, ils font une caravane, en fait, ils se déplacent dans toute la France, et c'est l'occasion aussi pour nous de rappeler que le 28 octobre aura lieu à Amiens le procès des 9 militants de la Confédération paysanne qui sont jugés suite à une action de démontage de la ferme-usine des 1000 vaches, donc suite à une action justement contre tout un symbole de l'agriculture intensive en France et même au niveau européen. Ah, et c'est encore à moi. Et du coup, une bonne nouvelle, une super bonne nouvelle, puisqu'on apprend, encore sur Bastamag, par rapport à nos belles entreprises françaises du CAC 40 et les droits humains. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a des petits malins de European Coalition for Corporate Justice, donc un petit peu plus malin que moi en termes de prononciation de l'anglais, qui ont fait une revue de presse entre 2005 et 2013 à propos des entreprises du CAC 40. Et qu'est-ce qu'ils ont cherché? Eh ben, ils ont regardé lesquelles étaient mises en cause. Donc, mises en cause, hein, dans les articles, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont condamnées, mais ils sont appuyés sur des mises en cause sérieuses, sur lesquelles il y a de forts doutes et déjà des faisceaux de preuves, dans des atteintes aux droits humains. Alors, au niveau des entreprises européennes, c'est assez la classe, puisqu'il y a quand même deux tiers qui sont impliqués dans des mises en cause au terme de droits humains. Et pour la France, donc gros cocorico, puisque sur les 37 entreprises du CAC 40, on en a 24 qui sont impliquées, donc dans des gros problèmes de droits humains. Donc voilà, qu'est-ce que c'est ces entreprises? On va encore cracher sur Total, Sanofi, ArcelorMittal et BNP Paribas. Et qu'est-ce qu'ils font ces pauvres gens, ces entrepreneurs? On crache encore dessus, mais pourquoi? Pour simplement des petites choses. Par exemple, bon, Total, ils ont un peu détruit un village en Ouganda, hein. Ils ont fait couler un peu de pétrole, etc. Bon, bref. Après, bon, on peut penser à Sanofi, hein, c'est les gens qui nous font des petits médicaments et qui nous soignent. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, Sanofi? Ah bah tiens, ils ont fait des tests de médicaments sur des patients qui avaient survécu à Bhopal. Donc Bhopal, c'est quoi? C'était une belle usine chimique qui a explosé, qui a fait des millions de morts. Des milliers, pardon. Et bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des tests sur ceux qui survivaient. Bon, il y a eu quelques dizaines de morts. Bon, sinon, il y a la BNP. Alors moi, j'étais un peu surpris parce que je demandais comment une banque, elle peut nuire à des droits humains. Bah, c'est simple. En fait, elle va financer des entreprises qui vont produire, par exemple, des armes à sous-munitions. Donc, c'est des espèces de containers à bombes qu'on envoie, qui n'explosent pas tout de suite et qui permettent de remplacer les mines. Et ça, c'est des trucs contre lesquels la France a signé des traités interdisant ces armes-là. Voilà, alors ça, c'est le génie français, c'est l'initiative patronale, c'est le MEDEF, c'est la prise de risque pour les autres, enfin, sur les autres. Ouais, bon, c'est le patronat, c'est super. Et on a quand même une pensée émue pour ce fameux patron moustachu qui, lui, a eu un accident. Et cet accident a secoué la pensée française et l'éditorial français, puisqu'il est mort avec un accident de jet privé dans un chasse-neige.
Et on continue du coup dans les bonnes nouvelles en se tournant vers Nantes, où on vient d'apprendre suite à un rendu de procès que maintenant désormais l'expertise ADN peut être utilisée non pas pour courir après de dangereux tueurs, mais après des gens qui volent de la récup dans des supermarchés. Avec ce jeune de 39 ans qui a été, enfin jeune, ouais, cet homme de 39 ans qui a été arrêté du coup en train de voler dans des poubelles d'un supermarché. Et du coup, comme il voulait pas donner son identité, ils lui ont arraché des cheveux et ils ont fait l'expertise ADN dessus pour retrouver son identité. Et du coup, le procureur retenait trois infractions majeures contre lui. Du coup, déjà, le refus de prélèvement signalétique. Deuxièmement, la violation de son interdiction de paraître dans la commune, parce qu'en fait, c'était un mec qui était militant Notre-Dame-des-Landes. Et du coup, il était sur la commune de Nantes. Du coup, il avait pas le droit d'être dans cette commune. Et troisièmement, le plus important, c'est le vol en réunion par escalade. Voilà, donc parce qu'il avait grimpé un petit muret pour se rendre dans les poubelles du supermarché. Et du coup, le procureur requérait 3 mois de prison ferme sans mandat de dépôt, mais finalement, le juge a été bien bien clément, il a donné que 3 mois de sursis et 105 heures de tige. Voilà, du coup, sur les bonnes nouvelles judiciaires, et on passe tout de suite à un petit peu de musique.
Oui, du coup, on revient un petit peu en arrière, hein, parce que je pense que personne n'a vraiment pris en compte la mort du président de Total et tout ce que ça impliquait. Du coup, nous, on est vraiment choqués à Radio Canu. Du coup, on va vous passer une musique en hommage à tous les accidents de la route et aux accidents de jet privé qui sont plus nombreux qu'on le croit. C'est Oui Oui.
Vous venez de mourir pour la troisième fois. Perte d'adhérence aggravée par des pneus trop étroits. Oui, oui.
Et donc c'était Ludwig von 88. Le titre exact c'est Oui Oui. Oui Oui, excellent. D'accord. Et du coup, on enchaîne directement avec des nouvelles du préfet, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez du préfet sur Radio Canu. Et du coup, qui dans une conférence de presse à propos du début du plan froid là qui va commencer dans quelques jours, qui s'enorgueillit du coup de ses objectifs qui ont été réalisés, puisqu'il dit que depuis qu'il est arrivé préfet, il y a eu zéro mort par le froid. Depuis qu'il est arrivé. Bon, il précise bien par le froid, parce que bon, par le feu, il y en a eu certains, mais bon, son problème, c'est par le froid pour l'instant. Mais par contre, il rappelle quand même que les trois problèmes, du coup, pour lui, que pose le plan froid, ce sont avant tout les demandeurs d'asile, les personnes en situation irrégulière et les Roms. Voilà, donc ça n'a pas tellement changé, je pense, depuis qu'il est là. Et par contre, il dit bien que, même si, bon, il est quand même très très généreux, parce qu'il va donner 841 places contre 800 l'année dernière, donc quand même 41 places de plus qui seront en majeure partie des chambres d'hôtel. Mais il dit que sa politique, quand même s'il est très généreux, elle doit se situer entre la générosité et la non-attractivité. Parce que quand même, il ne faudrait pas attirer trop de gens à Lyon par des politiques aussi généreuses. Voilà. Du coup, on peut se remercier d'avoir un préfet aussi droit dans sa politique et avec des idées aussi généreuses quand même.
Ah bah ouais, merci le préfet, mais moi je voulais quand même un peu nuancer un peu tout ça sur les problèmes que posent ces gens-là, parce qu'il y a pire que les pauvres, il y a les terroristes. Des fois même c'est les mêmes. Mais là on était assez inquiets les dernières fois parce qu'on vous parlait des lois antiterroristes de Monsieur Cazeneuve. Et on est vachement rassurés parce que vu qu'on est en démocratie, bah, y a des députés qui n'étaient pas contents de cette loi. Alors ils ont fait une commission qui s'appelle la commission numérique. Bon, elle existe depuis quelques temps déjà. Elle avait déjà donné des petits conseils en juillet. Ils n'ont pas trop été écoutés. Hein. On les a un peu laissés de côté. Mais hier, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh ben, ils ont publié les suites de leurs réflexions. En colère, ils récusent le lien direct établi entre l'expression d'une opinion, fût-elle délictueuse, et la commission d'un acte terroriste. Donc là, c'était une citation. Et ils refusent aussi l'idée d'Internet comme une circonstance aggravante en cas d'arrestation, donc ce qui est passé avec la loi antiterroriste de M. Cazeneuve. Et ils sont aussi contre le fait de criminaliser tout acte de piratage militant et contre l'alourdissement des peines concernant ces actes-là. Alors du coup, voilà, bon, il y en a qui disent que de toute façon ça ne sera pas écouté, qu'ils n'étaient pas écoutés, qu'ils ne seront pas, et que ça va tout tomber à l'eau. Et juste pour vous donner des résultats, enfin de la suite de l'antiterrorisme, donc là ce qui se passe c'est qu'elle va être discutée au Sénat, et il y a très peu de chances en fait qu'elle soit retoquée ou amendée au Sénat. Alors s'il y en a quand même avec tout ça qui sont quand même inquiets parce qu'ils pensent que les méchants terroristes, en particulier les djihadistes, parce qu'apparemment c'est ceux qui font le plus peur, vont pouvoir continuer à poster des messages sur Facebook ou à aller sur Internet ou autre chose, pire peut-être même partir à l'étranger, et bah qu'est-ce qui se passe ? Il y a une nouvelle commission d'enquête sur le terrorisme djihadiste. Donc là c'est monsieur Paul Sueur qui vient d'être élu à la tête de cette commission, et ils vont se demander comment appliquer toutes ces belles lois qu'on a votées, comment un peu coordonner toutes ces lois contre les méchants djihadistes, et surtout comment faire des nouvelles lois pour les empêcher un peu plus de nuire.
Et on continue du coup sur le volet de la répression avec la nouvelle d'une fillette de 15 mois qui est incarcérée dans un CRA de Toulouse. Du coup, il y a quelques mois, François Hollande nous rappelait que c'était pas bien quand même d'enfermer des enfants. Et du coup, dorénavant, ce serait un principe de base de sa politique de pas enfermer des enfants dans les CRA.
Alors, c'est les centres de rétention administrative.
Ah oui, pardon. Oui, dans les centres de rétention administrative. Mais ceci dit, il y a une circulaire Valls récente qui contredit du coup les idées de Hollande, puisqu'elle prévoit d'enfermer des familles entières si elles se sont volontairement soustraites à leur obligation de quitter le territoire. Du coup, ce qui était le cas pour cette famille tchétchène avec du coup Aïcha, jeune de 15 mois, qui est enfermée depuis le 15 octobre maintenant au centre de rétention administrative de Toulouse. Voilà, il y a eu une plainte à la Cour européenne des droits de l'homme qui a été saisie, mais il n'y a pas de nouvelles depuis. Et on continue avec...
Alors aussi avec des personnes sans papier, mais du coup là c'était des coiffeurs et des coiffeuses. Et il y a le collectif des cinéastes qui a fait un petit film de 3 minutes dessus qui passera dans 100 salles d'art et d'essai pour alerter les personnes et le gouvernement sur les dangers de ces 18 coiffeurs et coiffeuses. Donc en fait, eux, ils risquent d'être expulsés d'une boutique à Paris qu'ils occupent depuis l'été. Alors pourquoi, me direz-vous, occupe-t-il cette boutique ? Eh ben, c'est que le début de l'histoire, c'est qu'en mai 2014, ils travaillaient donc dans cet endroit et ils sont mis à faire grève pour obtenir des contrats de travail. parce que du coup ils étaient 18 à être sans papier et tout ça. Et en fait, suite à ça, donc ils ont décidé effectivement de faire grève pour parler de leurs conditions de travail, parce qu'ils étaient tous dans un sous-sol où ils travaillaient depuis 1, 2 ou 3 ans au milieu de produits de coiffure chimique, sans aération et sans compter leurs heures et souvent sans salaire, quoi. Et du coup, quand ils se plaignaient, le gérant disait « bon, attention, sinon on va te faire rafler ». Du coup, ils sont un jour, ils ont osé cesser le travail. Ils ont contacté la CGT, ils ont porté plainte. Du coup, le gérant, il a pris peur, il s'est barré. Mais il y en a un autre qui a pris sa place. Et de nouveau, du coup, ils ont été les personnes qui travaillaient ont été menacées par le nouveau gérant. Du coup, ils sont remobilisés. Ils ont décidé d'occuper la boutique jour et nuit. Et il faut savoir que du coup, dans la loi CESEDA, il y a un truc qui est bien dans la théorie, donc il faudrait que ce soit appliqué. C'est que, grosso modo, une carte de séjour temporaire qui porte la mention vie privée et familiale peut être délivrée à la personne étrangère qui dépose plainte contre une personne qui l'accuse d'avoir commis à son encontre des infractions telles que conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne. Bon, grosso modo, s'ils se font exploiter par quelqu'un, et ils ont le droit de porter plainte, et normalement, ça leur donne droit à un titre de séjour. Du coup, là, cette carte de séjour auquel ces travailleurs doivent avoir droit, normalement, leur permet d'exercer une activité professionnelle. Mais du coup, pour le moment, tous les travailleurs travailleuses n'en bénéficient pas du tout. Il y a l'inspection du travail qui a pourtant fait un rapport comme quoi toute l'exploitation qu'ils avaient subie était bien réelle. Et c'est pour ça qu'il y a ce petit film qui a été fait, qui a été envoyé au ministère du Travail, de la Justice et de l'Intérieur. Mais bon, ils n'ont eu aucune réponse. Voilà, donc la lutte continue contre les patrons voyous et pour la régularisation de toutes les personnes. Et on peut rappeler qu'en France, le travail dissimulé représente 10% du produit intérieur brut de la France. Voilà, du coup, on espère qu'ils vont avoir gain de cause. Et du coup, mercredi, ils étaient tous ensemble au tribunal par rapport à cette affaire-là. Donc, on ne sait pas encore ce que ça a donné et on ne sait pas ce que les plaintes de la CGT et les plaintes individuelles pour traite d'êtres humains vont donner. Voilà, donc il y a une pétition qui est en ligne sur le site du collectif des cinéastes engagés pour les sans-papiers, donc que vous pouvez trouver sur Internet.
Et on vous invite aussi à regarder du coup leur petit film qui, on peut dire, laisse sans voix. Mais ça dépend dans quel sens on le prend. Autre nouvelle de la capitale, ce jeudi 23 octobre, un grand squat du coup à Bagnolet qui s'appelle le Transfo, c'est un squat qui existait depuis 2 ans, s'est fait expulser. Les flics sont arrivés tout simplement à 6h du matin et ont arraché les fenêtres à coups de pelleteuse. Et ont demandé aux habitants de présenter leurs papiers. Ils ont refusé, donc se sont tous fait embarquer. C'est un squat qui accueillait, enfin où il y avait beaucoup de sans-papiers qui y vivaient et il y avait quand même une grande activité politique et militante sur ce lieu. Le soir de l'expulsion, du coup, il y a eu une grande manifestation avec 300 à 400 personnes qui sont réunies et du coup, les flics ont dispersé, on va dire, la manifestation avec de nombreuses arrestations. On ne sait pas encore exactement combien.
Ok, ben encore une mini info sur les migrants de Calais, mais j'ai l'impression que tous les vendredis je lis exactement la même chose dans le Progrès et du coup je le redis au Canu Info, mais c'est juste qu'il y a encore un renforcement des effectifs de sécurité à Calais où ben, du coup il y a 2200 migrants qui essayent d'aller vers l'Angleterre et vraiment j'ai l'impression que là, enfin je sais pas où on en est, mais donc en tout cas Bernard Cazeneuve a encore annoncé qu'il y aurait encore plus de flics. Donc il y a un escadron de gendarmes mobiles, soit 70 hommes qui ont été affectés à une zone du centre. Et mercredi, une demi-compagnie de CRS, soit 35 policiers qui font des patrouilles à pied et en voiture. Voilà, donc c'est... Ah bah si, il y a les effectifs. C'est que ces nouveaux effectifs portent à 450 le nombre de policiers et gendarmes mobilisés à Calais. Pour une circonscription de police de 75 000 habitants. Voilà, bientôt, ils auront un policier par habitant.
Et du coup, pour rester dans la thématique opération policière et migrants, qu'on traite un peu trop souvent, effectivement, on va revenir un peu sur l'opération Moss Mayorum, dont on vous a déjà parlé dans Scanu Info et dans d'autres Scanu Info aussi. Alors, pour ceux qui n'ont encore pas entendu cette information, c'est donc une grosse opération qui a lieu depuis le lundi 13 et qui, du coup, court jusqu'à dimanche, ce dimanche 26 octobre, qui est une grande opération policière à l'échelle européenne, qui a lieu contre les migrants. Donc, son nom, c'est l'opération Moss Mayorum. Et son objectif, c'est d'arrêter et de contrôler des centaines de personnes afin de collecter diverses informations en vue de renforcer les politiques contre l'immigration. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque contrôle donne lieu à une procédure qui recense des informations sur le contrôle, donc le lieu, la date, l'heure, le moyen de transport de la personne, parce que ces rafles, elles se font surtout dans les gares, dans les aéroports ou vers les accès de transport public. Donc, il y a des informations aussi sur les personnes arrêtées. Donc, on liste la nationalité, le sexe, l'âge, le lieu et la date d'entrée en Europe, sur les routes empruntées, les moyens de transport et la destination finale, sur les documents en possession, les démarches administratives entreprises et les paiements de passeurs. Il y a un bureau de coordination de l'opération qui va être mis en place en Italie et chaque procédure va lui être remise via une adresse mail. Donc il semble en fait que ce genre d'opération devrait avoir lieu maintenant tous les 6 mois sous la coordination du pays qui assure la présidence de l'Union européenne. Il faut savoir que ce n'est pas la première opération dans ce style qui a lieu en Europe. En octobre et novembre 2012 déjà, il y avait une opération similaire qui avait eu lieu qui s'appelait l'opération Aphrodite, au terme de laquelle en fait ça a quand même été 5298 personnes qui avaient été arrêtées à travers l'Europe. Donc en fait cette opération Moss Mayorum, c'est un peu à la fois une opération de fichage, de recensement, puisque des centaines de personnes sont contrôlées, avec prise d'empreintes aussi, inscription sur les fichiers européens, etc. Mais c'est aussi en fait une sorte d'enquête à l'échelle de l'Afrique, Asie, l'Europe, pour connaître les nouvelles routes empruntées par les migrantes, les nouveaux pays de départ et de passage, ce qui va en fait permettre aux pays européens, en collaboration avec ces pays voisins, donc là ils pensent un peu genre à la Turquie, la Tunisie ou le Maroc, de renforcer les contrôles et des nouveaux dispositifs. Donc voilà un peu pour vous rappeler ce que c'était que cette opération Moss Mayorum. On n'a pas trouvé beaucoup d'informations encore à différents niveaux locaux de qu'est-ce qui se passe exactement, mais on peut quand même dire qu'à Bruxelles mercredi il y a 150 personnes qui ont manifesté contre cette opération. Je pense qu'il y a eu d'autres manifestations, qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de relayer cette information et notamment prévenir tous les migrants pour justement qu'ils traînent pas vers les gares ou les aéroports. Et même on vous incite à faire la même chose puisque cette opération elle est pas finie. À Paris, quand même, il y a eu beaucoup d'opérations de contrôle massif, notamment à l'extérieur et à l'intérieur de la gare du Nord. Et donc, en ce moment, il y a quand même à chaque fois plusieurs fourgons de CRS dans lesquels ils font monter les gens pour les contrôler et les fouiller. Et des patrouilles avec des flashballs à la main devant la gare, des flics en civil et des petits groupes à l'intérieur. Il faut faire gaffe aussi vraiment que les flics, ils peuvent être tout seuls ou en groupe, en civil ou en uniforme. Enfin voilà, que c'est pas forcément parce qu'il n'y a pas 5 gros camions de CRS que les personnes elles vont pas se faire contrôler. Et peut-être on a d'autres informations aussi dans d'autres villes.
Oui, bah justement en fait pour rendre un peu plus visible toutes ces rafles qui se passent en ce moment, des gens de Toulouse ont mis en place une carte des arrestations, enfin des arrestations et autres. Donc je vais vous donner l'adresse, c'est map.nadir.org. Donc cette carte permet de dénombrer et de géolocaliser en gros donc les barrages de flics, les arrestations, les contrôles dans les gares, mais aussi les manifs et toute forme d'action qui peuvent être organisées pour dénoncer cette rafle. Et donc en fait avec cette carte on peut avoir un peu plus de détails ensuite sur le contexte des différents contrôles et arrestations. Alors en fait c'est pas juste une carte. Du coup, quand même, ce qui est important de dire, c'est que il s'agit d'un outil participatif sur lequel vous pouvez signaler les arrestations dont vous êtes témoin ou au courant. Donc vous pouvez le faire via le site ou avec votre téléphone portable, puisqu'ils mettent à disposition des applications pour différents types de mobiles. Donc les applis sont directement téléchargeables depuis le site, je crois. Sinon, depuis le site, il n'y a pas besoin d'avoir de compte. On a un petit formulaire à remplir dans lequel on demande quelques informations concernant ce qu'on a pu observer. Et après, il y a une petite carte interactive, on pointe l'endroit et donc voilà. Alors cette carte a été mise en place justement par rapport à l'opération Moss My Room. Mais le but en fait, c'est qu'elle puisse être continuellement utilisée pour signaler et dénoncer toute arrestation. Parce que évidemment, après le 26, les rafles vont pas s'arrêter comme par magie. Donc voilà, donc c'est un outil qui a été mis en place donc, et qu'il faut continuer à utiliser et qui va s'alimenter au fur et à mesure. Donc voilà, donc on peut trouver déjà dessus quelques infos. Donc voilà.
Et du coup, pour rappeler les autres outils aussi, on peut trouver sur internet assez facilement sur le site de No Border Paris et sur pas mal de sites No Border ou de soutien aux sans-papiers des affiches traduites dans plein de langues qui rappellent ce que c'est que cette opération policière. Et je crois aussi, si on doit taper un truc comme information radiophonique radio rageuse Moss Moorium, il y a un truc qui a été fait qui se trouve en ligne. Voilà, pour le diffuser donc soit sur les murs, soit sur d'autres ondes.
Et donc on va rester un peu dans cette thématique. Mais du coup, on va changer de coin. On va se diriger en Australie, où en fait, Andrew Wilkie, donc c'est un député indépendant, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, a annoncé donc ce mercredi qu'il avait demandé à la Cour pénale internationale d'enquêter sur la politique d'immigration très restrictive menée par l'Australie. Alors en fait, plus précisément, il a demandé d'ouvrir une enquête sur les crimes contre l'humanité perpétrés par les membres du gouvernement australien contre les personnes qui arrivent dans les eaux australiennes pour rechercher l'asile. Donc on peut se dire que crime contre l'humanité, ça paraît un peu fort, mais en fait, peut-être pas. Récemment, le gouvernement australien a prévu de dépenser la modique somme de 20 millions de dollars pour financer une campagne publicitaire super raciste et violemment anti-immigration. Donc alors c'est signé par le gouvernement australien. Alors l'affiche est très claire, je vais vous le dire, le contenu, vous allez halluciner. Donc il y a un gros no way qui est au début. Donc no way, c'est en gros il n'y a pas moyen, aucune chance, abandonne tout espoir. Vous ne ferez pas de l'Australie votre foyer. Le gouvernement australien a mis en place les mesures de protection des frontières les plus fortes de l'histoire. Donc après, ils énumèrent un certain nombre de points. Il y en a quatre. Si vous prenez le bateau sans visa, vous n'atteindrez pas l'Australie. Premier point. Deuxième point. Toute embarcation cherchant à rejoindre l'Australie illégalement sera interceptée et renvoyée au-delà des eaux australiennes. Troisième point. Les règles s'appliquent à toute famille, enfant, accompagné ou non, que vous soyez éduqué ou qualifié ou non. Et dernier point. Peu importe qui vous êtes et d'où vous venez, vous ne ferez pas de l'Australie votre foyer. Alors, c'est hyper trash. Alors, cette affiche a été diffusée largement un peu partout, dans plein de langues, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu et qu'on puisse pas dire qu'on n'était pas prévenu. Les langues sont quand même bien ciblées. On retrouve par exemple l'arabe, l'indonésien, le népalais, le vietnamien, l'ourdou. Donc ça c'est en gros, ça cible clairement les populations qui sont les populations immigrantes vers l'Australie. Alors ils sont pas arrêtés à cette affiche évidemment. Dans la même optique, ils ont publié une sorte de BD horrible dans le but de clairement dégoûter toute personne prétendante à l'immigration. Alors la BD fait genre 18 pages. Donc on y voit le périple d'un Afghan qui quitte son pays et sa famille pour venir en Australie, enfin pour tenter de venir en Australie. Et qui se fait rembarrer vite fait, bien fait, conduire dans un centre de rétention, dans une espèce de camp sur une île du Pacifique. Et à la fin, on peut voir l'homme afghan se morfondre et regarder et regretter le temps où il était en Afghanistan. Alors après, il y a plein de petits détails, notamment comme la bienveillance des flics qui donnent des gilets de sauvetage le temps de les conduire au camp. Donc voilà. Donc c'est vraiment horrible. Cette campagne publicitaire s'inscrit dans le cadre de l'opération militaire
qui s'appelle Sovereign Borders, qui veut dire frontière souveraine. Donc c'est un peu le même délire que Most My Room. Et donc, alors, sauf que cette opération frontière souveraine, ça dure pas une dizaine de jours, c'est en place depuis septembre 2013. Et donc en fait, l'objectif est très clair, c'est de stopper les bateaux qui cherchent à rejoindre l'Australie illégalement. Et selon les sources gouvernementales, ça permet surtout d'empêcher les gens de risquer leur vie en mer aux mains de criminels et de préserver l'intégrité du programme d'immigration de l'Australie. Alors, le programme d'immigration de l'Australie, alors il faut savoir que pour l'Australie, le programme d'immigration, ça se résume à enfermer les gens dans des centres de rétention, sans durée limite de détention, et de les rembarquer vers des États tiers, qui sont proches de l'Australie, comme par exemple la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nauru, etc. Alors, tous ces pays, en fait, n'ont aucune possibilité pour intégrer les réfugiés politiques. Alors, comment ça se passe ? Ben, l'Australie va instruire le dossier. Si elle reconnaît la qualité de réfugié, elle dédommage l'État tiers pour que celui-ci garde le réfugié dans ses camps. Donc, c'est un truc qui était fait. Donc, le gouvernement travailliste avait enclenché cette pratique. Et là, ben, c'est Tony Abbott, qui est le premier ministre, qui l'a amplifiée pour la rendre encore plus radicale. Donc, impossible de s'installer en Australie, même si le statut de réfugié est reconnu. Donc en fait, les immigrants se voient refuser toute possibilité de s'installer et ils ont le choix en gros entre rester dans les camps ou de rentrer chez eux. Alors pour à titre d'indication, en 2013, il y avait 20 000 migrants qui étaient parvenus à rejoindre la côte. Et depuis l'arrivée au pouvoir du gouvernement Abbott, donc il y a un an, un seul bateau y est arrivé. Donc, alors c'est un exploit dont se vante évidemment le gouvernement qui déclare les règles s'appliquent à tout le monde, familles, enfants, mineurs non accompagnés, gens instruits et formés, il n'y a aucune exception. Donc alors là, ça fait plutôt froid dans le dos et enfin de voir le gouvernement australien se vanter d'une telle opération, d'en faire de la pub, etc. Mais alors du coup on comprend un peu mieux l'accusation de crime contre l'humanité portée par le député. Mais, parce qu'a priori, cette plainte, donc qui s'inscrit quand même dans pas mal de protestations en Australie, n'a quasiment pas de chance d'être retenue, car la Cour pénale internationale ne peut pas enquêter sur des faits en lien avec un conflit armé. Donc après, le seul recours, c'est de faire appel au Comité des droits de l'homme de l'ONU. Et d'ailleurs, l'Australie a été condamnée en 2012 déjà pour ce genre de choses, où 37 personnes migrantes avaient été arrêtées dans les eaux territoriales et avaient été placées dans des centres de rétention qui, à l'époque, étaient en Australie, parce que maintenant, ils ne sont plus en Australie. Et ces détentions se sont faites sans que soient précisées les raisons, la durée et sans recours devant un juge national. Donc, en fait, rien n'a changé depuis, sauf que, enfin oui, maintenant, les centres de rétention ne sont plus en Australie. Je peux vous donner, alors récemment il y a eu donc dans un des centres qui se trouve à Nauru, donc qui est une île à l'est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en fait il y a eu donc il y a eu plusieurs protestations là-bas et depuis par exemple depuis le 25 août il y a entre 300 et 500 demandeurs et demandeuses d'asile qui se rassemblent chaque soir pour manifester contre leur détention. Entre-temps, cette constatation s'est propagée au camp des hommes entre le 4 et le 7 octobre, où 90 personnes ont mené une grève de la faim et une centaine ont tenu un rassemblement aux portes du camp pendant 24 heures. Alors après, il y a de, enfin voilà, c'est toutes ces. Alors après, le gouvernement, en fait, pour calmer un peu les esprits. Il promet d'améliorer les conditions de détention, etc. Mais en fait, pour ces personnes, le problème, c'est pas uniquement les conditions, mais bien la détention elle-même, puisqu'elle est à durée illimitée et ainsi potentiellement à vie. Et alors, pour revenir à ce qui s'est passé sur l'île de Nauru, toutes ces manifestations là depuis fin août ont tout de même entraîné la libération de personnes mineures isolées enfermées dans le camp. Mais quand même, le département de l'immigration leur a intimé de ne pas s'impliquer dans les protestations à l'extérieur des camps. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu de cette situation en Australie qui est assez horrible.
Et du coup, ben désolé, ça va être pas beaucoup plus joyeux. Maintenant, on va arriver dans les politiques racistes aux États-Unis et comment on peut se servir du virus Ebola comme prétexte au racisme ordinaire. Alors, c'est une petite histoire qu'on a lue sur Internet cette semaine. Ça se passe dans le canton de Maple Shade, je sais pas trop comment on dit, dans le New Jersey. Et donc, c'est un peu une communauté de moins de 20 000 habitants dont le slogan est « Une jolie petite ville, des gens amicaux ». On est beaucoup moins sûr que ce soit des gens amicaux parce qu'on s'est rendu compte en fait que les parents de deux élèves rwandais qui devaient reprendre les cours lundi, en fait, n'ont pas pu. Ils ont en effet décidé de garder leurs enfants à la maison quelque temps suite au grabuge provoqué par la lettre de l'infirmière de l'école de Howard Yocum. Alors, qu'est-ce qu'elle disait, cette lettre? Ben, je vais vous dire, elle disait « Il n'y a pas de cas répertorié d'Ebola au Rwanda, mais malgré cela, je compte prendre des précautions pour m'assurer de la santé de tous. Je vérifierai donc la température des deux élèves 3 fois par jour pendant 3 semaines. » Bon, alors, ça laisse un peu pantois. Du coup, il y a le gardien... Il y a le gardien de l'école qui a été interrogé sur la chaîne de NBC Philadelphia et qui du coup explique « Beaucoup de gens allaient enlever leurs enfants de l'école et certains professeurs refusaient de venir enseigner. Maintenant que les parents des deux enfants ont décidé de ne pas nous les envoyer, on n'a plus à s'inquiéter de rien. On sait qu'ils iront bien quand ils reviendront. » Bon, faut quand même savoir que ces deux enfants, ils sont asymptomatiques, ils ont rien du tout et qu'on peut quand même leur rétorquer qu'ils vont déjà bien et qu'on n'a pas besoin de les mettre en quarantaine parce qu'ils sont rwandais en attendant que l'épidémie soit vaincue. Il y a d'autres incidents de cet ordre qui ont fait les gros titres aux États-Unis. Par exemple, au Texas, alors que la prise en charge du premier cas d'Ebola à Dallas avait été largement critiquée, l'université Navarro a pris de façon unilatérale une décision qui est un peu quand même regrettable il y a 10 jours. Alors qu'elle devait accueillir 2 étudiants nigérians à la rentrée, ces derniers ont reçu début octobre le courrier suivant. Donc le courrier, il dit « Avec regret, le Navarro College ne peut accepter votre candidature. Malheureusement, le Navarro College n'accepte pas d'étudiants étrangers venant des pays où des cas d'Ebola sont confirmés. » Donc c'est quand même assez ouf de racisme et d'amalgame entre qu'est-ce que c'est un virus, qu'est-ce que c'est des personnes qui viennent de certaines nationalités, notamment africaines. Et on s'en rend compte quand on voit comment est-ce qu'on parle d'Obama. Donc pas plus tard que mercredi dernier, Cass Ablove, qui est un médecin et invité régulier de la chaîne ultra-conservatrice Fox News, expliquait à une heure de grande écoute que le refus du président Obama de couper les lignes aériennes en provenance de l'Afrique s'explique par le fait de, et du coup là je vais vous citer ce médecin, ses affinités, son allégeance envers les Africains, pas les Américains, il faut que les gens l'acceptent, il est leur leader, pas le nôtre, nous n'avons pas de président. L'élection d'Obama a eu lieu du fait du syndrome de Stockholm développé par le peuple suite au 11 septembre. Son nom est très proche de celui de notre ami juré Osama Obama. Donc voilà les argumentaires portés et vraiment sur des chaînes de grande écoute par des gens dits des experts et reconnus par, je suppose, la plupart des gens, en tout cas les journalistes qui les invitent. Dans un autre registre, mais tout aussi polémique au mois d'août, Newsweek a choisi d'illustrer son dossier intitulé « Le cheval de Troie d'Ebola, la viande de gibier importée pourrait provoquer une épidémie aux USA » par la photo d'un chimpanzé. Et donc les journalistes du Washington Post, Laura Civi et Kim Yidion, déplorent dans un article le fait que ce dossier évoque un problème de santé publique illégitime. Le choix éditorial qu'il représente, comme la photo qui a été choisie pour l'illustrer, place Newsweek dans la continuité d'une longue et laide tradition de traiter les Africains comme des animaux sauvages et l'Afrique comme un continent sale et malade dont il faut avoir peur. Alors, on peut critiquer les Américains, en Europe c'est pas beaucoup mieux. L'été a été ponctué d'actes discriminatoires à cause d'Ebola. En Italie, par exemple, plusieurs écoles ont ainsi envoyé des courriers d'avertissement précisant que tous les élèves d'origine africaine devraient se munir d'un certificat médical spécial pour la rentrée. On peut quand même noter qu'à côté, aucune demande similaire n'a par contre été formulée aux enfants blancs qui avaient passé leurs vacances en Afrique. Une campagne montée de toutes pièces a également envahi le web, affirmant que 3 cas d'Ebola s'étaient déclarés à Lampedusa, l'île d'arrivée de beaucoup de migrants. Si on va en Autriche, la Croix-Rouge autrichienne a tenu un discours similaire dans un communiqué alertant les pouvoirs publics sur les stigmatisations dont sont victimes les personnes d'origine africaine dans le pays. Là aussi, les écoles sont les premières concernées. De nombreux cas de renvoi temporaire d'élèves noirs de leur école, au prétexte de la moindre toux ou fièvre légère, ont été répertoriés. Et pour finir sur la France, dès le printemps, le préfet du Loiret demandait lui aussi un certificat médical spécial aux mineurs étrangers pour être accueilli par le service social d'aide à l'enfance de la région. De l'imagination au service du racisme ordinaire, dénonce la Ligue des droits de l'homme, qui s'était engagée dans une bataille juridique pour faire annuler l'arrêté en question. On va peut-être finir par une citation de Jean-Marie Le Pen pour qui déclarait quant à lui que Monseigneur Ebola peut régler en 3 mois le problème de l'explosion démographique. En réponse à ce phénomène, une campagne est apparue au Libéria. Sur les réseaux sociaux, donc on voit des photos de Libériens arborant un panneau qui dit « Je suis un Libérien, pas un virus ». Et donc voilà, c'est un peu des campagnes de réaction et de protestation qui se multiplient. Donc il y a un mouvement de lutte contre la stigmatisation grâce auquel ils espèrent interpeller l'Occident. Je sais pas, en fait, juste pour dire qu'on est dans un racisme qui, je pense, dépasse parfois l'entendement.
Et voilà, alors maintenant, c'est vendredi soir, vous êtes tous bien en colère, donc on vous met un petit morceau de rap un peu vénère qui s'appelle « Les lumières se tamisent ».
C'est Fred Dorlin, c'est Marty Sprott, papy. E1, d'appro. Réflexe collectif. Comment oh. C'est notre triste course, un chaos sous contrôle qui mène au cachot, sponsorisé par Bouygues d'Assaut. Car jour après jour, ils nous suppriment précarité ou bientôt chômage ou usine. Refuser leur jeu, c'est commettre un crime. De citoyen à terroriste, reste une marge infime. Un cap à franchir vers la liberté, et puis juste le plaisir de bien les faire chier. Vive pleinement, quitte à être traqué, même si doucement, la vérité finit par marquer. Aucun retour possible quand t'as senti l'inadmissible. T'as droit à ton nom sur leur listing. L'ennemi est à la hauteur, affrontons-le avec honneur. Entièrement jusqu'à l'enterrement, à jamais nous voudrons leur tête. Les sans-terre en colère ne tolèrent pas la défaite.
Les lumières se tamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace. Les lumières se tamisent et les lueurs s'effacent. Ainsi va la crise et les libertés s'encrassent. Espace vital qui peu à peu se restreint. Avancer serein tout en laissant une trace. Une lumière s'éloigne dans le lointain. La liberté se fait baiser dans une étreinte. Une crise et la pandémie, c'est la crainte. Ils dépassent les lignes, pourtant sont pas écrivains. La crème des connards est au pouvoir, c'est certain. Et n'espère pas mieux si tu votes demain. La main mise sur les intérêts des êtres que nous sommes. En somme, si j'additionne, ça donne fin de mec cramé. Depuis 30 ans, le ventre rongé par leurs promesses. Si je suis Boynton, réflexco, c'est les têtes brûlées, emprumées dans une fumée épaisse.
Et, voilà, c'était Fred Dornin. Pardon, et Martis, les lumières se tamisent, ce qui nous fait une belle introduction pour les politiques sécuritaires et le biopouvoir.
Et oui, avec des nouvelles intéressantes qui nous viennent d'Angleterre, où on apprend du coup des nouvelles fonctionnalités des smartphones, avec une équipe de chercheurs qui a récupéré du coup les données sur plusieurs mois, les données libres d'accès en fait des smartphones, c'est-à-dire du coup en fait les coordonnées GPS des gens qui veulent bien se géolocaliser, les données, leur statut Facebook et réseaux sociaux, et leur statut origine sociale, âge, identité, tout ça. Donc en fait, ils ont leur but, c'était d'essayer de voir s'ils arrivaient à prédire scientifiquement la criminalité dans la ville de Londres. Et de voir du coup si sur un mois, en croisant les données qu'ils avaient sur le mois d'avant et les déplacements de personnes après, qu'ils avaient sur le mois d'après, et du coup toutes les données issues des réseaux sociaux et des autres données qu'ils avaient, s'ils pouvaient réussir à prévoir à quel moment et dans quels endroits de Londres allait se passer des crimes. Et du coup ils ont réussi sur le mois dernier quand même avec une acuité de 70% selon eux, sachant qu'ils ont découpé Londres en 1300 clusters du coup, et qu'ils ont réussi apparemment d'après eux à avoir une efficacité de 70% de la prédiction des crimes sur un mois,
Voilà, donc une nouvelle fonctionnalité de nos smartphones qui est découverte, qui paraît quand même assez intéressante.
Ah, on est bien rassurés contre ces vilains criminels, mais moi je me pose des questions. Est-ce que quand même il n'y a pas des baisses de productivité qu'on pourrait un peu changer quoi, dans le monde dans lequel on vit?
Oui, justement, ça fait une magnifique transition avec Facebook et Apple qui se rendent compte du coup justement que les femmes qui sont à l'honneur quand même dans leur entreprise, parce qu'elles ont la joie de travailler pour eux, enfin au même titre que les hommes d'ailleurs. mais malheureusement, elles sont handicapées par le fait que de temps en temps, les femmes, elles font des enfants et du coup, elles s'arrêtent de travailler. Et donc, c'est une baisse de la productivité de ces entreprises et aussi un frein pour leur carrière. Et du coup, c'est un problème pour la parité homme-femme dans les entreprises. Et du coup, quelle solution ils ont trouvé pour ça? C'est de proposer la cryogénisation des ovules des femmes en âge de procréer et de leur proposer ensuite la PMA dans les limites de 20 000 $ qui financerait pour chaque femme travaillant pour Facebook ou Apple. Donc, pour l'instant, c'est pas encore fait, mais c'est un projet qu'ils viennent d'annoncer à grand renfort de pub aux États-Unis. Et ce qui est le plus bizarre, c'est qu'en fait, c'est une information qui est plutôt bien passée dans les médias américains. Et la plupart des journaux trouvent ça plutôt chouette finalement que les femmes puissent avoir du coup cette possibilité offerte par des grandes firmes d'avoir finalement la même carrière que les hommes et que ça accéderait finalement plus facilement à la parité. Voilà. Donc on continue avec l'Espagne.
Bien sûr, ce qui n'a rien à voir, mais bon, c'est pas grave, puisque moi je compte plutôt vous parler d'un projet minier. Donc c'est dans la région des Asturies, Asturias, donc un projet minier canadien qui a divisé les habitants d'une bourgade qui est ravagée par le chômage. Alors c'est une petite bourgade de 4000 habitants qui s'appelle Tapia de Casariego, et avec des habitants qui vivent de la pêche, de l'élevage et du tourisme. Et du coup, il y a cette grosse entreprise canadienne qui est arrivée et qui a dit oui, nous on va créer des emplois, on va faire 200 emplois, ça va être super, c'est toute la solution pour lutter contre le chômage. Mais bon, bien sûr, du coup ça divise parce qu'il y a plein d'habitants qui trouvent que ça risque bien sûr de détruire la qualité de la vie. Et bien sûr, il y a des gros risques écologiques, puisque déjà le puits de la mine sera sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle où il y a plein de paysans qui ont des vaches et tout ça. Et en plus, l'autorité qui donne le la en matière de gestion des eaux a montré dans un rapport que l'eau allait forcément être rejetée dans la mer et qu'elle serait contaminée, quoi. Et du coup, c'est impossible que les cours d'eau absorbent tous les déchets qui seront rejetés dans la mer. Donc après... Pardon. Alors, comme il y a beaucoup de pêcheurs dans cet endroit, les pêcheurs sont très inquiets. Bref, et ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, c'est une mine d'or. Et du coup, ce qui se passe, c'est que si le cours de l'or chute, cette mine elle va être fermée voilà. Mais aussi ce qui se passe, c'est que les Romains du coup avaient exploité pendant 3 siècles cette mine avant, ce qui fait que là le minerai qui est accessible aujourd'hui, il est sous des lagunes qui se trouvent enfermées dans une roche, et cette roche elle contient de l'arsenic et du soufre, et du coup pour l'extraire il faut une technique agressive et toxique. Casture Gold, donc l'entreprise canadienne, a dit qu'elle mettrait pas en place en Espagne, mais là sauf que c'est obligatoire pour pouvoir sortir le minerai. Voilà, donc il y a cette lutte qui s'organise dans les Asturies.
Alors moi je tiens à rassurer tout le monde, hein, parce qu'il y a eu des problèmes comme ça autre part dans le monde, et les exploitants de mines nous ont rassurés, parce qu'en fait ils prennent un peu du cyanure et d'autres trucs toxiques, mais ils nous ont rassurés en disant que le cyanure s'évaporait au soleil. Donc arrêtez de vous inquiéter. Et du coup j'en profite pour donner des bonnes nouvelles de l'écologie en deux mots, ou autrement dit de l'écologie au service des chiens du capital. Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais essayer de faire vite. Il y a une brillante idée du fondateur de la marque Alter Conso. Vous savez, c'est quand vous allez acheter des trucs de merde en fait, qui maintiennent le système d'inégalité économique, mais avec sur le petit paquet un paysan qui sourit en habit traditionnel, c'est-à-dire le commerce équitable que vous trouvez maintenant dans tous les supermarchés. Qu'est-ce qu'il a eu comme idée? Il s'est dit, eh bien les amis, et si on pouvait compenser les activités polluantes des multinationales en finançant la préservation des forêts. Donc ça, c'était déjà fait, hein, mais aussi des coopératives locales de commerce équitable. Donc ce monsieur, qui est le fondateur de la marque Alter Conso, il avait déjà fait un grand pas en avant dans l'écologie au service du capital, puisque c'est lui qui avait fait rentrer le commerce équitable dans les supermarchés. Alors, une autre preuve de sa radicalité, hein, pour ce monsieur, c'est qu'il a été élu entrepreneur social de l'année en 2013, où ça, tout le monde se le demande, au Forum économique mondial de Davos. Donc voilà, alors toute belle idée qui fait que les pollueurs pourraient aller planter des arbres ailleurs pour sauver la planète. Mais bon, apparemment il serait un peu critiqué, alors pourquoi ? Alors c'est assez rigolo, parce que par exemple il a commencé à faire ça au Pérou, et il y en a qui râlent un peu parce qu'ils disent, bon, les communautés locales, elles n'ont pas été consultées vraiment, enfin elles ont été consultées mais une fois que le projet était déjà en place. Et pourquoi elles râlent, ces communautés ? Bah parce que du coup on leur a pris des terres, donc elles n'avaient pas de titre sur les terres, donc c'est des terres qui ont été acquises avec des droits de propriété, et c'était des terres dont elles se servaient pour l'agriculture. Donc là on retrouve une bonne vieille idée de la nature bien sacrée, avec les gens qui y vivent à la base, qui sont ceux qui polluent, et puis les occidentaux qui vont leur dire comment ne pas polluer. Et puis du coup on peut aussi se questionner sur les raisons des entrepreneurs, hein, qui vont aller aider les gentils Pérouviens, et pourquoi ils le font, parce que c'est des gens comme Nestlé, Total, oh mon dieu, je repense à ce patron qui est mort, la main sur le cœur. Donc tous ces gens, on peut se demander vraiment qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête. Et puis, et oui, parce que du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'approprient aussi les forêts sur 80 années. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa aussi en termes de commerce équitable. Et puis, ah oui, parce que vu qu'il y a quand même des paysans qui ont rien à bouffer et qui voulaient reprendre des terres, bah, ils ont mis des checkpoints avec des gardes armés. Donc voilà, les Amis de la Terre, c'est eux qui ont dénoncé un petit peu ce nouveau projet, en disant que la compensation carbone, elle induit aussi un transfert de responsabilité entre les pays riches et les plus pauvres. Et là, on voit comment ça se fait à travers une domination coloniale, en fait, une domination raciste.
Et oui, alors on passe très vite à l'agenda. Donc demain, il y aura une manifestation en soutien à Kobané, donc pour la résistance kurde. Donc c'est à 15h à Place Bellecour, voilà, pour dire stop au massacre de Rojava et pour demander des armes pour la résistance kurde et du soutien, beaucoup de soutien, et le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes de l'UE.
La semaine prochaine, jeudi 30 octobre, jeudi, soirée de soutien à Radio Canu, au Cafeton. Je découvre ce mot. Au Cafeton, au 44 rue Burdeau. Ah bah oui. Sur les pentes de la Croix-Rousse, donc à partir de 19h, avec, pour assurer l'ambiance, les bandes continues de Radio Canu. C'est vrai. Et du coup, je rappelle aussi que Radio Canu cherche des sous, et donc vous pouvez donner, il y a un appel aux dons en cours, et on en est à 8,83%. Donc voilà, c'est pas assez.
Et on voulait vous conseiller, si comme l'hiver vient s'installe, d'aller au cinéma pour voir Mommy, le dernier film de Xavier Dolan, qui est très bien. Voilà, c'était le conseil culturel du jour.
Et juste pour terminer très très vite, on signale que samedi prochain, c'est ça, 1er novembre, commence le On s'installe partout. Donc en gros, c'est durant un mois, partout dans la ville, à l'initiative du Salon des éditions libertaires, qui auront lieu le 22 et le 23 novembre. Il y aura théâtre, film, cirque, spectacle, musique, rencontres et échanges pour montrer la multiplicité des lieux, des pratiques, des débats, de contestation et de transformation de l'ordre du monde. Donc voilà, ça commence le 1er novembre.
Et ben voilà. Merci.